Get up on this thing, the time is now. What you waiting for? It's time for you to get up and show the world what we have in store. Some people had to stand in line to get up in this place. Time is surely hard, pick up your guard in this crazy race. We about to get up on this thing, the time is now. What you waiting for? It's time for you to get up and show the world what we have in store. Some people had to stand in line to get up in this place. Time is surely hard, pick up your guard in this crazy race.
Pour écouter la radio, il faut bien sélectionner une fréquence. Ça, c'est le rôle.
RFI, 7h à Paris, 5h en temps universel.
Julien Coquel-Roel.
Bonjour à toutes et tous. Mardi 14 avril, c'est RFI Matin qui commence. 3 heures d'information pour revenir notamment sur la situation au Moyen-Orient. Un grand invité ce matin aussi pour faire le tour des enjeux diplomatiques. Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, est avec nous dans un peu plus d'une heure. Mais d'abord le journal. Bonjour Guillaume Ouattara.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
À la une, un face-à-face presque inédit entre Israéliens et Libanais.
Ça se passe à Washington, des premières négociations directes entre les deux pays. Ça n'était pas arrivé depuis plus de 30 ans, avec un objectif fragile, arracher un cessez-le-feu. Pendant ce temps, dans le Golfe, les États-Unis ont enclenché le blocus des ports iraniens. Mais malgré le verrou des failles, un pétrolier lié à la Chine a réussi à traverser Hormuz. Sur place, des centaines de navires restent immobilisés. Dans l'actualité également, en Algérie, le pape en terrain inédit. Léon XIV poursuit sa visite historique. Premier souverain pontife a foulé ce pays avec un message martelé, celui de la paix et du dialogue. En France, justice rendue, mais colère intacte. L'ancien patron de Lafarge condamné pour financement du terrorisme en Syrie. Mais certaines victimes, elles, restent à l'écart. Et puis le foot, l'Europe retient son souffle. Début des quarts de finale, retour de Ligue des Champions avec un choc très attendu ce soir entre Liverpool et le PSG.
Guerre au Moyen-Orient et des négociations sous très haute tension.
Israéliens et Libanais se retrouvent ce mardi à Washington pour des pourparlers directs, une première depuis plus de 30 ans sous la houlette de Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine. Mais avec une question en suspens, vont-elles tourner aussi court que celle entre les États-Unis et l'Iran ce week-end? Les autorités libanaises parlent en tout cas de réunions préparatoires à des négociations, manière de tempérer les attentes, et il y aura d'un côté l'ambassadrice du Liban et de l'autre son homologue israélien, avec l'objectif de trouver un accord de cessez-le-feu alors que l'offensive israélienne se poursuit avec des frappes rapportées hier contre plusieurs villages dans le sud. On retrouve à Beyrouth nos envoyés spéciaux Abla Jounaïdi et Jadel Khoury. Bonjour Abla.
Bonjour.
Une réunion préparatoire donc, disent les autorités libanaises, qui suscite de grandes attentes au Liban, mais pour l'heure chaque parti arrive avec des propositions contradictoires.
Oui, d'un côté, le Liban et son ambassadrice Nada Hamadeh Mouawed posera ses priorités, un cessez-le-feu immédiat dans cette guerre qui a déjà fait plus de 2000 morts, avant de pouvoir ensuite discuter de ce qui préoccupe Israël, la situation sécuritaire dans le sud du Liban. De son côté, Israël exige d'abord et avant tout de désarmer le Hezbollah, qui représente pour lui la première menace, et ensuite seulement discuter d'un cessez-le-feu. Voilà pourquoi, pour l'heure, les opérations militaires israéliennes se poursuivent. Israël revendique avoir tué plus de 100 membres du Hezbollah dans Binjbeil, encerclés. C'est donc sous le feu israélien que ces pourparlers débutent, Guillaume.
Et c'est justement ce que n'accepte pas un acteur principal de cette guerre, le Hezbollah, qui n'est pas à la table des négociations à Blin. Hier, le chef de la formation a même demandé l'annulation de la rencontre.
Oui, pour le parti Mili, cette rencontre entre les deux pays, techniquement en guerre depuis 1949, est, je cite, une capitulation. Ces derniers jours, on a entendu beaucoup dans les rues de Beyrouth l'opposition des partisans du Hezbollah et de son allié chiite Amal, des manifestations carrément hostiles au gouvernement libanais. D'autres Libanais veulent croire à ces négociations avec un espoir très limité. Pour eux, négocier sous le feu, c'est forcément dans une position de faiblesse. Et avoir le principal acteur de cette guerre, le Hezbollah, hors de la table des négociations, c'est l'assurance de rendre toute application de l'accord difficile, voire impossible.
Explication signée Abla Jonaïdi. Merci, en direct de Beyrouth avec Jade El-Khoury pour RFI.
Dans le même temps, Donald Trump a mis ses menaces à exécution.
En lançant hier après-midi le blocus des ports iraniens, désormais pleinement en vigueur, avec une consigne claire donnée à la marine américaine, intercepter tout navire entrant ou sortant des installations iraniennes et frapper si nécessaire, objectif assumé, couper les exportations pétrolières de Téhéran, près de 2 millions de barils par jour. Téhéran qui dénonce une piraterie et agite la menace de représailles régionales. Pendant ce temps, les prix du pétrole s'envolent au-dessus des 100 dollars le baril. Une escalade militaire et économique qui fragilise encore un cessez-le-feu déjà précaire et qui installe un face-à-face à haut risque. Avec un objectif sans doute, Pierre-Olivier, rouvrir entièrement le détroit d'Ormuz.
Environ 15% du pétrole consommé par la Chine provient d'Iran. Alors, si Téhéran ne peut plus exporter son brut par voie maritime, Pékin risque d'être pénalisé. Omayoun Falakshahi, responsable de l'analyse pétrolière chez Kepler.
Trump fait le pari que la Chine, en fait, pourrait changer sa posture diplomatique et adopter un ton un peu moins conciliant vis-à-vis de l'Iran. Tout simplement que la Chine fasse pression sur le régime iranien pour qu'il laisse passer davantage de bateaux afin qu'il y ait plus d'hydrocarbures qui puissent atteindre les marchés mondiaux.
Pour Téhéran, il s'agirait alors d'un dilemme, satisfaire son partenaire chinois ou perdre sa mainmise sur les cours mondiaux du pétrole. Omayoun Falakshahi.
La stratégie de l'Iran jusque-là, ça a vraiment été de prendre en otage l'économie mondiale, notamment les prix du pétrole et du gaz. Donc s'ils n'ont plus ça en main, évidemment, ils perdraient un grand levier d'action par rapport aux négociations futures qui pourraient prendre place entre eux et les États-Unis.
Avec les livraisons déjà en route et le délai des paiements à venir, l'Iran pourrait vraiment commencer à souffrir financièrement de ce blocage d'ici quelques semaines.
Pierre-Olivier pour RFI. Et malgré le blocus, on apprend ce matin qu'un premier navire a réussi à passer le détroit. Un pétrolier lié à la Chine sous sanctions américaines. Il a traversé dans la nuit donc le détroit d'Ormuz avec à son bord près de 250 000 barils de méthanol, devenant le premier à quitter le Golfe depuis l'entrée en vigueur des mesures américaines. Une brèche symbolique donc qui illustre les limites du dispositif, alors que sur place des centaines de navires restent à l'arrêt, pris dans l'attente, et avec eux des milliers de marins suspendus à l'évolution de la crise. Au cœur de cette attente, certains documentent leur quotidien, comme ce marin chinois bloqué au large. Il a partagé pendant plusieurs jours son quotidien sur Douyin, le TikTok chinois, sur lequel, Nicolas Roca, vous vous êtes rendu.
Ça, c'est un pétrolier. Là, c'est encore un pétrolier. Lui, on dirait un navire de guerre, mais c'est aussi un pétrolier. Les paysages qui l'entourent, son environnement, ses habitudes, sa cabine. En 18 vidéos, le marin Zhang Changshui a créé une petite communauté sur Taoyin. L'homme de 37 ans a documenté son quotidien de marin ancré dans le détroit, comme ici lorsqu'il se filme devant la manette de commande du navire.
Quand on est arrivé, tout allait bien. Et là, on ne peut plus repartir. Regardez par exemple, nous sommes en position arrêt. Beaucoup d'entre vous aimeraient que l'on pousse la manette vers la position 4, plein gaz. Mais on ne peut pas tant qu'on n'a pas reçu d'instruction. On ne peut que rester en position d'arrêt. Il faut être patient.
Près de 100 000 abonnés suivent ses péripéties et lui répond à leurs questions.
Quand ce bateau est amarré ici, ses cycles d'entretien et de maintenance s'allongent, ce qui réduit les frais d'entretien et de maintenance. Ça, c'est l'impact pour l'armateur. Et puis, il y a aussi l'impact sur l'équipage. Par exemple, nous sommes amarrés, mais on touche notre salaire quotidien comme d'habitude.
Ces points quotidiens sur la situation dans le détroit se sont arrêtés subitement la semaine dernière, sans aucune explication.
Nicolas Roca pour RFI.
Cette guerre au Moyen-Orient, ces négociations aux États-Unis, les impacts sur l'économie mondiale de tous ces sujets, il sera question à 6h15, temps universel, avec Jean-Noël Barrot, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, et notre invité au micro d'Arnaud Pontus. Il est 6h08 à Annaba, deuxième journée du voyage du pape en Algérie ce mardi.
Accueilli hier à Alger sous un ciel pluvieux par le président Abdelmajid Tebboune, Léon XIV est le premier souverain pontife à fouler le pays d'Afrique du Nord. On retrouve notre envoyé spécial sur place, Eric Sénanc. Bonjour Eric.
Bonjour.
Le pape a posé hier les jalons de cette visite en développant en particulier le thème de la paix, sans pour autant, Eric, délaisser les questions politiques.
Je viens parmi vous en pèlerin de paix, désireux de rencontrer le noble peuple algérien. Léon XIV a su trouver les mots pour saluer ses hôtes, rendant hommage au profond sens religieux des Algériens, qui est, selon lui, la clé pour la paix et la réconciliation. Le chef de l'Église catholique a exhorté chrétiens et musulmans à se rencontrer, seul antidote, à ses yeux, à un monde fracturé par les conflits. Le pape a aussi salué l'hospitalité profondément enracinée du peuple algérien, mais la paix et le dialogue n'étaient en effet pas les seules thématiques au menu de son allocution devant le président Tebboune et les dirigeants algériens. Le pape n'a pas manqué d'exhorter les autorités du pays à faire plus de place aux jeunes, estimant que les autorités sont appelées non pas à dominer mais à servir le peuple. Léon XIV, qui a parlé de justice sociale, est invité à promouvoir une société civile vivante, dynamique et libre.
Eric, ce mardi, place donc à la deuxième étape de ce voyage apostolique, puisque Léon XIV est attendu à Annaba, à 400 km à l'est d'Alger.
Oui, Annaba, l'ancienne Hippone, une étape qui se fait sur les traces de son maître spirituel, saint Augustin, né en Algérie il y a plus de 16 siècles et dont le rayonnement spirituel reste universel. Le pape vient en terrain conquis, il s'est rendu deux fois à Annaba en 2001 et 2013, lorsqu'il était le supérieur de l'ordre des Augustins. Après une visite du site archéologique de la ville, le pape doit visiter une maison pour personnes âgées, puis la communauté des religieux augustins pour une rencontre en privé, avant une messe finale en milieu d'après-midi dans la basilique saint Augustin. Le point d'orgue de la journée. Toute la ville d'Annaba s'est préparée pour accueillir celui qui, dès le début de son pontificat l'an dernier, s'était présenté comme un fils de saint Augustin, une figure qui reste très populaire ici en Algérie.
Merci Eric Sénanc en direct sur RFI ce matin. Bras de fer inédit entre Washington et le Vatican. Tiens, Donald Trump s'en prend frontalement au pape Léon XIV, qu'il juge très faible et accuse même de s'opposer à sa stratégie face à l'Iran. Dans son sillage, le vice-président Jed Evans appelle le Saint-Siège à, je cite, rester sur le terrain moral et à laisser la politique aux États-Unis, une ligne assumée qui tranche avec la réponse du pape qui revendique un devoir de parole pour dénoncer la guerre et défendre la paix. Une tension rare entre pouvoir politique et autorité religieuse sur fond de conflit au Moyen-Orient et qui suscite déjà des réactions en Europe, notamment en Italie où Giorgia Meloni juge inacceptable les attaques contre le souverain pontife.
En France, l'ancien directeur de Lafarge a passé sa première nuit en prison.
Et Bruno Lafont, reconnu coupable avec le cimentier et 7 ex-responsables de financement du terrorisme en Syrie en 2013 et 2014. Ils avaient sciemment versé 5,6 millions d'euros de pots de vin à Daesh et deux autres groupes djihadistes pour maintenir leur usine ouverte dans le nord du pays. C'est reconnu par la justice. Cependant, la constitution de partie civile des anciens employés syriens du géant du béton a été jugée irrecevable par le tribunal. Ils n'ont droit à aucune indemnisation. Nida Louabi était le responsable des ressources humaines de l'usine, kidnappé par les terroristes. Son statut de victime n'a pas été reconnu. Il n'a même pas obtenu de visa pour venir assister au procès. Après 10 ans de procédure, ce Syrien réagit à ce jugement avec amertume. C'est au micro RFI de Noé Pignède.
Je ne sais même pas quoi dire. Nous, les employés syriens, sommes les principales victimes. Nous avons été retenus en otage par Lafarge pour continuer à faire tourner l'usine. Certains sont morts, certains ont tout perdu, d'autres ont été kidnappés. C'est le cœur du dossier. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde considère que la vie des Syriens vaut moins que celle des autres. On comptait vraiment sur la justice française, sur les droits humains. On était sûr que la justice serait rendue. Donc je suis profondément déçu. Ce n'était pas une question de toucher de l'argent, mais d'être entendu. Pourquoi ne sommes-nous pas reconnus comme victimes, comme si on ne savait pas?
Et il avait un grand chapeau, avec une petite tête dedans, des oreilles en forme de sou, et en dedans des poils tout blancs.
grosse barbe, une moustache et de longs cheveux grisonnants, des yeux mouillés et attristés, comme on en croise de temps en temps. Une petite pièce, s'il vous plaît, pour le clochard de la rue du Caire, un pauvre euro pour le clodo, qu'il s'achète de quoi prendre chaud. Une petite pièce, s'il vous plaît, juste quelque chose à bouffer, un pauvre euro pour le clodo, rêvant de se jeter un bon vin chaud. Il avait pourtant la bonne mine quand il était chef d'entreprise. Vêtu d'un beau costard cravate, il n'était pas trop diplomate. À celui qui tendait la main, lui répondait, demande au voisin. Maintenant qu'il est sur le trottoir, c'est une autre histoire. Tous ceux qui furent ses semblables, le fusil du regard. Il use de larmes et de grimaces pour le leur jeter en pleine face. Une petite pièce, s'il vous plaît, pour le clochard de la rue du Caire, un pauvre euro pour le clodo, qu'il s'achète de quoi prendre chaud. Une petite pièce, s'il vous plaît, juste quelque chose à bouffer, un pauvre euro pour le clodo, rêvant de se jeter un bon vin chaud.
À le chemin d'un vieux gitan le manche à la main, qui lui dit viens donc au comptoir, que je te montre un tour de guitare. Depuis il serpente les rues, depuis il gratte à corps perdu, sur tous les quais, c'est les trottoirs, mendiant leur petit coup à boire. Une petite pièce, s'il vous plaît, pour le clochard de la rue du Caire, un pauvre euro dans le chapeau, pour un dernier petit vin chaud. Une petite pièce, s'il vous plaît, juste quelque chose à bouffer, un pauvre euro pour le clodo, rêvant de se jeter un bon vin chaud.
Bitches from Brussels, ma ville. Dans ma ville, comme chez Léon, les moules sous les néons s'affolent. Ma ligne de vie, la trace à coups de torche dans mes paumes, plus de psaumes que dans les mains d'un mioche. Viens pas faire le show si t'as loupé le coche. Mets ta langue dans ta chatte ou garde-la dans ta poche. Bruxelles ma belle, y'a trop de putes sur tes trottoirs, de jalousie en string tatoué salopard. Pour une main franche tu sers de main moite, pour un gars qui marche droit tu envoies de qui boite. Mais bon soit, la vie est ainsi faite, je peux pas reprocher aux nazes de refouler leur défaite. Les mecs me testent et c'est pas de la parano. En soirée, en métro, en voiture, au McDo, ils veulent ma chute, que je reste en seconde. Les regards me transpercent comme la couche d'ozone. Frérot, je reste humble, mais si tu me la joues pas chiche, alors je te baise et te jette comme une bitch. Il voulait mettre de la crème dans mon café noir pour qu'il vire R&B, que je reste sur le trottoir. J'ai pas besoin de vos thèmes, de vos faux soirées stars, de vos vieilles pisses en boire, d'un rap en costard. J'aime pas les bains de foule, les clubs pleins de blondes qui s'accrochent à tes boules jusqu'à ce qu'elles fondent. Entre nous y'a un monde, une culture, des valeurs. J'ai vu à la seconde où tu m'as demandé l'heure. Quoi de neuf cousin? Au fond t'en as rien à battre, c'est pas dans le rap que t'excelles, mais plutôt dans le théâtre. Dans chaque boîte y'a 6 Tupac, de Lil Kim, un Nelly, un Biggie. Ces soirées déguisées mais sans les confettis. Chercher à lever une meuf en 2 minutes, c'est comme chercher de la chaleur dans les bras d'une pute. Certains se donnent corps et âme, collectionneuses d'hommes. Plus de fils dans leur vie que sur l'atomium. Dans ma ville comme chez Léon, les moules sous les néons s'affolent. Pour 20 euros passe à la casserole. Les traves font la file en dessous de Belgacom, pendant que les putes de luxe se font mettre en condom. viens faire un tour ici. Prends le taxi, l'anorexie se veut sexy en parésie. De la place du jeu de balle à la place de Brooker, y'a des transfusions de cam et de situations précaires. T'habites un bunker, on appelle ça un loft. Valeur immobilière pour ceux qui se croient à New York. Les quartiers pauvres sont rachetés par les branchés. Et si t'as pas de thunes, débarrasse le plancher. L'inflation fait les cardiaques, le travail aux plaques. Les putes, les macs, les flics qui se donnent en spectacle. Viens dans ma ville, voyage au cœur de l'Europe. Mais n'oublie pas ta thune ou bien tu crèves comme une salope.
Bitches like you ain't shit to me. Bitches from Brussels.
à Évreux
sur le DAB+.
Sur le DAB+.